Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
h 47, c'est le Spacecast qui vous accompagne jusqu'à 22h. Je m'appelle Jean-Francis Blais. Face à moi, j'ai mon chum Louis Gauvin, Violently.
Oui, monsieur. Toujours là.
S'il y a quoi que ce soit, 88-670-9098. Je suis en train de lire vos commentaires. Phil nous parlait de l'Évangile en papier. Ben clairement, là, je présume que c'est ça la bonne réponse, là, parce que tout le monde nous a texté ça.
L'Évangile en papier, je pense que ça a un lien avec le fameux cyclorama là, et Claude Lafortune, qui était le gars qui aurait dessiné ça. Tout le dessin à l'intérieur du cyclorama. Et de ce que je comprends, l'Évangile en papier serait une genre d'émission pour enfants là, que Claude Lafortune aurait fait. Je comprends pas trop, moi non plus, mais c'en est la lecture que j'en ai fait de l'Évangile en papier.
On fait une sortie Spacecast au bidule de Jérusalem. Là.
Pour vrai, oui, on va faire ça un jour d'ici
un jour. Peut-être.
300 ans.
Ouais, peut-être. Peut-être pas non plus. Qui sait? On verra bien. Hey, 88-670-9098, c'est le numéro pour nous rejoindre. Oui, mais particulièrement pour nous envoyer des questions par rapport au comportement de votre chien. Vous avez des problèmes avec? Au courant des prochaines minutes, je suis très content d'aller le rejoindre. On va jaser avec notre spécialiste en comportement canin, notre chum Chris. Salut Chris!
Hey, salut tous les deux. J'espère que vous allez super bien. Écoutez, on est prêt à répondre à des questions sur les comportements. Mais je crois que le truc de Jérusalem, c'est fermé là-bas, là, non?
C'est rendu fermé?
Le cyclorama?
Oui, c'est fermé, cyclorama. C'est plus visitable.
Ah, ouais?
Pas sûr de ça.
Ah, ouais? Moi, je crois, là, non? En tout cas, j'ai peur de dire une fausse information, mais moi, j'ai l'impression que c'est barré, là. On peut plus visiter la super fresque.
Sur leur site internet, ça semble être ouvert.
Il
n'y a pas d'indication contraire.
C'est à l'abandon que même leur site internet est abandonné.
C'est possible ça aussi. Ça se peut très bien.
Hey, bon, Chris, en tout cas, on va pas parler. Ouais, vas-y.
On en a parlé au début de l'émission. On était supposé faire une table ronde aujourd'hui. Finalement, la table ronde. Il n'y a pas de table ronde finalement. Fait que je commence avec une question belle courbe. Est-ce qu'il existe des chiens gays?
Hey! C'est super bon. Intéressant ce que tu dis là, parce que veux pas, tu vois, si on avait fait la table ronde, probablement j'en aurais parlé, parce que effectivement, dans le milieu animalier, et pas que chez les chiens d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des comportements homosexuels.
Ah ouais.
Ça veut dire que finalement le chien va être capable, comme d'autres animaux dans la nature, d'avoir des moments de complicité, des moments de tendresse, des moments d'affection. Naturellement, aucun moment de reproduction, parce que ça prend dans la nature un mâle et une femelle pour pouvoir se reproduire. Mais effectivement, les chiens peuvent être amenés à adopter des comportements homosexuels dans lesquels les objectifs sont divers et variés. Ça peut très bien être dans un enjeu de création hiérarchique, c'est-à-dire les deux mâles, par exemple, sont en train de définir qui est celui qui va avoir la plus grosse, finalement. ça peut être également pour régler des problématiques qui sont d'ordre plus au niveau social, c'est-à-dire pour apaiser une tension qui est en train de se créer entre deux chiens, ou ça peut être tout simplement juste pour pouvoir créer un moment de complicité ou un moment affectif entre deux chiens de même sexe. Ça existe chez les mâles, ça existe chez les femelles, et ça existe dans bien d'autres espèces encore de la nature. Chez les oiseaux, ça existe aussi. Chez les félins, ça existait aussi. On peut en trouver également chez les lions des comportements homosexuels. Alors, je fais bien la distinction entre l'homosexualité et les comportements homosexuels, et bien entendu, l'homosexualité dans le rapport sexuel.
Ouais, mais
ce qui veut dire...
Le rapport sexuel, là, est-ce que les animaux ont cette notion-là de le faire juste par plaisir, ou c'est complètement une affaire humaine, ça?
Est ou non, effectivement, le plaisir est ressenti également chez les animaux. Il n'y a pas que chez les humains que ça existe. Nous, on est capable de le verbaliser, de l'expliquer. Mais chez les animaux aussi, il y a des relations sexuelles qui sont de l'ordre uniquement du plaisir, pas nécessairement que pendant la période de la reproduction. On verra ça notamment beaucoup chez les primates, notamment chez les chimpanzés ou autres singes. Et effectivement, on peut avoir des comportements sexuels qui ne sont pas de l'ordre de la reproduction et dans lequel les animaux vont aller rechercher un certain plaisir. Absolument.
On a déjà peut-être un appelant qui aurait une question pour toi.
Allons-y.
On va aller directement au téléphone. Puis j'invite nos auditeurs soit à nous texter, soit à nous téléphoner également s'ils ont des questions par rapport à leur chien. C'est toujours le fun d'avoir des enjeux plus personnalisés, si on veut.
Exact.
On va en ligne. Radio X, bonjour.
Bonsoir.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Vous trois aussi, ça va bien?
Oui.
Ça va super. Oui.
Bon, moi, j'ai une femelle, un labrador chocolat. Elle a 5 mois et demi. Puis, elle a commencé ça depuis la semaine passée. Elle prend ses toutous. Puis, elle fait pareil comme ça serait un mâle. Elle zigne
ses toutous.
Oui, aussi. Parce que nous, c'est la première fois, moi et mon conjoint, on a eu des chiens, mais c'était des mâles. Puis, la première fois qu'on a une femelle. Ça veut dire quoi, un comportement d'une femelle qui fait ça? Savez-vous?
Qui zigne le toutou?
Oui, elle a des toutous, des gros toutous là, qu'on lui a achetés chez Costco. Là. Elle a son préféré, elle garoche dans les airs, elle a du fun. Puis là, elle embarque sur le divan, là, elle met ça dans les airs, puis zing, zing, zing.
C'est une grosse cochonne.
Non, non, c'est quelque chose.
Dites-moi, quand elle adopte ce type de comportement-là, comment vous réagissez, par exemple?
Ben, on peut rire.
Fifi,
qu'est-ce que tu fais là?
OK, mais vous réagissez à chaque fois, c'est-à-dire que quand elle zigne, vous n'êtes pas en mode ignorance du comportement. Vous allez ou rire ou interagir avec elle, mais en tout cas, il va y avoir une conséquence, c'est ça que j'entends?
Je suis assise sur le fauteuil, là. Je suis en train de me bercer, elle s'installe à côté de moi. C'est juste de ne pas avoir une réaction.
Alors, en fait, le zignage, c'est un comportement qui peut avoir plusieurs significations, tout dépendant du contexte. Là, elle a 5 mois et demi, donc on s'entend qu'on n'est pas encore dans un mode de reproduction. Puis en général, c'est pas la femelle qui est sur le dessus et qui zigne, hein, quand on est vraiment dans la reproduction. Ça veut dire que le zignage peut avoir d'autres types de significations, comme notamment lorsqu'il y a un excès de stress ou d'énervement. Il est possible que le chien, à un moment donné, pour pouvoir libérer ce trop-plein de stress, que ce soit un mâle ou une femelle, se mette à zigner l'air, se mette à zigner un coussin, se mette à zigner un toutou, se mettre à zigner son tapis, se mettre à zigner n'importe quoi. Ça peut être effectivement en lien avec un trop-plein d'énergie qui n'est pas assez dépensé.
Je peux ça vous peut dire qu'il y en a beaucoup. Hein?
Ben, ça peut être l'inverse également. Ça peut être quand le chien a trop dépensé d'énergie, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'il n'est plus dans un mood de savoir quel est le comportement à adopter. Ça peut arriver effectivement que dans un excès de trop de stimulation, le zignage devienne un comportement qu'il va adopter. On peut appeler ça comme presque un comportement stéréotypé. Vous savez, comme quand un chien décide de courir après sa queue, par exemple, pour essayer de l'attraper, c'est quand justement il y a un enjeu qui peut être lié à un manque d'énergie, un manque de stimulation, un manque d'enrichissement, par exemple, de l'environnement. Mais ça peut aussi avoir une signification, ça peut être aussi de la frustration. Un chien qui est frustré à un moment donné quand il voit qu'il n'est pas capable de pouvoir affronter ou l'autre congénère avec lequel il interagissait ou avec l'humain, il peut partir direct, prendre un coussin, un toutou, whatever, et se mettre à le zigner par frustration. La troisième raison pour laquelle le chien peut être amené également à zigner quoi que ce soit, hein, que ce soit un toutou ou même son tapis, c'est que justement, c'est pour ça que je vous demandais quelle était votre réaction, c'est que justement, c'est peut-être une manière pour elle aussi d'avoir une espèce de création du lien social avec vous, parce qu'elle a compris que quand elle se met à zigner, ça peut être effectivement conséquent à une réaction de votre part.
Une réaction.
Donc, peut-être qu'elle a tourné autour de vous à un moment, et puis qu'à un moment donné, vous ne l'avez pas vraiment...
Elle fait ça juste le soir, là. Elle fait ça le soir, on écoute la télé.
Ben, c'est ça.
On écoutait la télé, elle faisait ça le soir, là. Tu sais, il faisait noir, là.
Ben,
c'est
pas ça,
dans le jour.
C'est exactement ça. Ça veut dire qu'elle, par rapport à son biorhythme, on s'entend, elle a dormi pendant une grande partie de la journée. C'est encore un chiot, on s'entend, elle a 5 mois et demi. Arrive le soir, elle arrive au moment où justement toute la famille est là, où socialement elle veut créer une interaction avec vous. Vous êtes devant la TV, vous êtes en train de faire complètement autre chose, puis vous n'êtes pas nécessairement en train de vous occuper du chien à ce moment-là. Puis elle est là en train de dire moi je vais m'amuser avec vous autres. Puis elle voit qu'en tournant autour de vous, ça ne fait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle n'a appris que quand elle se met à zigner quelque chose, là, on se focus sur elle, là, on se met à rigoler ou là, on se met à interagir avec elle. Et là, à ce moment-là, elle a été capable de créer le lien social avec vous, finalement. Okay. Donc, ça peut être aussi un vecteur de communication. Mais en règle générale, ça peut être aussi un petit mélange de toutes. Parce qu'on s'entend que ce comportement stéréotypique et le zignage, c'est pas nécessairement un comportement comme pourrait faire le chien qui, s'il a vraiment envie d'avoir un contact avec vous, va être amené à sauter sur vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme solution? Ben, la solution que je vous propose, c'est éventuellement d'enrichir son environnement pour lui permettre de stimuler son système cognitif d'une autre manière et surtout d'essayer de trouver des nouveaux codes de communication avec elle, c'est-à-dire éventuellement de lui apprendre à s'asseoir devant vous pour qu'au moment où elle s'assoit devant vous, vous ayez quasiment le même type de comportement, le même type de réaction que si elle se mettait à zigner son toutou finalement. Parce que c'est une manière pour elle finalement de faire son intéressant. Vous savez, c'est comme un enfant qui à un moment donné, on s'occupe pas de lui. Il va essayer de faire tout et n'importe quoi pour être capable d'avoir le spotlight sur lui et qu'à un moment donné, c'est une manière pour lui de pouvoir récupérer de l'attention. Fait que si elle a compris que le zignage lui permettait de vous interpeller, ben c'est sûr que c'est un comportement qu'elle va probablement réitérer.
Okay. Mais c'était tellement drôle, là. Elle a fait ça pendant au moins quasiment une heure de temps, puis après ça, elle avait toute la langue sortie sur le côté. Puis...
peut-être juste nymphomane aussi.
Exact. Enfin, pas nymphomane, mais là, vous voyez, là, vous venez apporter une précision qui est encore plus intéressante. Combien de temps ça a duré? Si ça a duré effectivement
à peu près
une heure.
Puis ouais. Après ça, quand elle a eu la langue sur le côté, puis après ça, ben là, elle s'est couchée en arrière du fauteuil, là.
Exact. Ça veut dire qu'elle elle s'est servie de ce comportement-là, peut-être pour générer une frustration de ne pas avoir été en interaction sociale avec vous. Puis elle s'est dit, bon, OK, la seule manière que je vais avoir maintenant pour pouvoir dépenser mon énergie, c'est de zigner. Fait que je vais zigner jusqu'à ce que j'en sois épuisé. Okay. Vous pourriez très bien rediriger ce type de comportement-là vers d'autres comportements tout aussi fatigants, comme par exemple lui faire mastiquer quelque chose, ou alors, mais là, ça nécessiterait que vous n'écoutez plus la télé à ce moment-là, mais c'est d'interagir avec elle en lui apprenant éventuellement à faire des jeux de réflexion dans lesquels elle va être obligée de mobiliser son système cognitif pour réfléchir, ce qui fait qu'elle aura nettement moins d'énergie après être disponible pour faire du zignage.
OK.
Eh bien, merci, madame. Merci beaucoup d'avoir appelé. Puis, suggestion comme ça aussi, là, peut-être juste la slot shamer. Peut-être qu'à longue, elle va être écœurée aussi de se faire rire d'elle. Hey, merci de votre appel.
OK. Merci. Bye-bye,
Abby. Bye-bye. J'essaie des théories, Chris.
Ah, mais c'est pas si fou que ça. Moi, chez nous, on en a une grosse salope, là.
Ah!
Non, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle est épouvantable. C'est la Labrador qui fait tout comme pour... carrément agressé sexuellement, mon pauvre petit border collie qui a rien demandé. Il est couché, il vit sa best life, là, tu sais, il snouffe, il surveille comme pour être sûr qu'il se passe rien, parce qu'il surveille toujours tout ce qui se passe. Puis là, elle arrive, puis elle vient se mettre le trou de pète direct où son nez. Puis là, le chien, il se tasse, elle retourne, puis elle, il frotte son cul dans la face. Elle est épouvantable.
Hey, moi, là, ça me fait rire d'entendre ça, parce que pour vrai, là, Yoko, je pense même pas qu'elle a une conception de la sexualité, genre. Je l'imagine pas vouloir un autre chien, genre.
Ouais. Hey, ben, de toute manière, elle est sérénisée. Fait qu'au niveau des hormones, il y a un break à ce niveau-là. C'est sûr qu'elle n'aura pas la même dynamique. C'est ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'entretenir des relations affectives et même des relations, on va dire, plus intimes avec un autre chien, mais pas dans un but de reproduction.
Elle s'y prend bien mal parce que crier après les mâles, ça les fait plus fuir d'habitude que rester. Peu importe la race.
Mais ça marche dans d'autres espèces pareilles. Hein. Chez les humains, c'est un peu pareil.
Exact, aussi, c'est ça, exact. Allez, on retourne au téléphone. Les lignes sont bien pleines pour te jaser, Chris.
Allez, allons-y.
Les gens se sont ennuyés. Radio X, bonjour. Ah, lui n'a pas été patient.
Ah, bah tiens.
Radio X, bonjour.
Oui, salut, Rich.
Hey.
C'est Pat.
Ben oui, je t'ai reconnu, Pat. Des nouvelles de tes chiens chinois à Crète.
Oui, oui.
Oui, ben c'est ça. C'est que moi, je voulais savoir avec Chris, là, il y a des places qu'on peut faire suivre un cours, tu sais, pour le comportement du chien. Parce que là, tu sais, je m'aperçois que des fois, tu sais, il écoute pas quand je rencontre un autre chien, comme l'autre jour, j'ai rencontré un labrador, c'est plein, puis qui voulait le manger. J'ai dit, il est tout petit, il va se faire pogner, tu sais. Je me dis, peut-être si. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a des cours qui se donnent, puis je trouvais que c'était un peu dispendieux. J'ai dit, peut-être qu'il y a des places moins chères un peu, parce que.
Oui, mm-hmm. Les SPA, offres-tu des cours, Chris? Ou, tu sais, justement, pour les gens qui ont peut-être moins de moyens, puis en sous-question, je me permets, Pat, la question, est-ce que il peut arriver un moment où ton chien est trop âgé pour aller, entre guillemets, à l'école?
Ben là, il est jeune, il y a un an et quatre mois, là, tu sais.
Ah, OK.
Oui. Oh, ben, il est jeune encore, il est super jeune. Bon, pour répondre à toutes les questions, pour répondre à ta question, Pat, d'abord, est-ce qu'il y a effectivement des cours plus ou moins dispendieux? Ouais, malheureusement, sur le marché, on a un peu de tout, mais on a aussi les méthodes qui vont aller avec, puis les résultats qui vont aller avec. Puis je te dirais qu'un cours de groupe, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça va obliger ton chien à devoir se canaliser alors qu'il va avoir plein d'autres chiens autour. La seule problématique qui se passe, c'est que lorsque tu es en cours de groupe, finalement, ton besoin ou ta problématique va être noyée un peu dans toutes les autres problématiques des autres. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas se focusser uniquement sur toi pendant l'heure de cours. Elle va être obligée naturellement de s'adresser à toutes les personnes qui participent au cours. Et malheureusement, quand il y a un chien qui a tendance à prendre un petit peu plus de temps ou à mobiliser un peu plus de temps de l'instructeur, ça peut arriver qu'à un moment donné, il y ait des petites recommandations qui soient dites, ben, peut-être qu'il faudrait voir plus pour un cours privé, parce que là, ton chien a tendance à créer beaucoup de stimulation à droite et à gauche. Donc, le cours de groupe, ça peut être intéressant, effectivement, mais pour ça, il faut s'assurer de trouver une bonne école. Et malheureusement, une bonne école, c'est un petit peu comme tout, ça ira avec le prix aussi derrière.
Ouais.
Moi, je vais pas vous en donner ici en ligne parce que malheureusement, je les ai pas toutes testées, mais je pourrais éventuellement faire passer à GF certaines recommandations que je pourrais vous donner. Puis vous pourrez aller sur le site du Spacecast pour aller voir les quelques écoles que j'ai pu vous proposer. Mais elles sont pas légion. Il y en a pas tant que ça. En tout cas, pas celles pour lesquelles je pourrais donner une évaluation parce que j'ai pas suivi leurs cours à proprement parler et je connais pas les méthodes utilisées.
C'est pas ça. Ce que je me dis, c'est que même si je suis pas de cours, tu sais, juste rencontrer d'autres chiens, là, parce que ici, dans mon coin, c'est problématique un peu avec le parc à chiens et tout.
Exact. Tu vois, Pat, moi, ce que j'offrais comme, parce que j'en offre un petit peu moins, mais en même temps, à la rigueur, toi, ça fait un moment maintenant que je te suis par l'intermédiaire du Spacecast. Donc, grâce au Spacecast, je pourrais peut-être faire une petite entorse à mon règlement par rapport à la manière avec laquelle je fonctionne. Ça me ferait peut-être plaisir de me rapprocher de toi. Et puis, en plus, je le fais plus pour le plaisir maintenant que pour gagner de l'argent, puisque c'est vraiment pour dans l'objectif d'aider vraiment le monde. Mais on pourrait voir éventuellement à mettre en place un petit cours que moi, j'avais mis en place dans mon oasis chez nous, dans lequel tu viens avec ton chien. Ton chien arrive en position attachée au départ et il va rencontrer mes chiens en position attachée aussi au départ. Et ça nous permet vraiment de nous mettre en situation quand le chien rencontre un autre chien alors qu'il est attaché à sa laisse. Et à l'issue de ce petit cours, ce que je pourrais faire éventuellement, je sais pas comment ça peut se passer par l'intermédiaire de la radio, mais est-ce qu'on est capable de pouvoir récupérer tes coordonnées que moi je te rappelle éventuellement? Ça pourrait être ça.
Oui, mais ils doivent les avoir à la station.
Oui, probablement que j'ai ça, ou Max doit avoir ça. Fait que, écoute, on.
Ouais.
J'ai une dernière petite question, vite faite, Rich.
Oui.
Tu sais, je t'ai dit qu'il y avait des problèmes de peau, il y avait comme des boutons.
Oui, ça s'est-tu réglé?
On a essayé de. Ouais, non, mais ça c'est parti de toutes les fesses en arrière. Il y en a encore un peu dans le dos. Mais j'ai lu à quelque part, c'est pour ça que je demande l'opinion à Chris. On a essayé de l'huile de coco, mais aussi de l'huile de lin. Il paraît que c'est bon, ça, pour la peau.
Effectivement. On essaie de plus en plus de solutions, Pat, qui effectivement permettent aux chiens d'être exposés à des matières ou à des choses pour lesquelles le chien n'a jamais été exposé, donc n'a jamais développé de réaction allergène, en un sens comme pour la nourriture d'ailleurs, où de plus en plus maintenant on trouve de la nourriture à base d'insectes pour la protéine, parce que l'insecte n'a pas les nourritures à base d'insectes n'ont pas été vraiment très importantes au niveau des commerces, qui fait que on se retrouve avec des chiens qui n'ont pas été exposés encore aux insectes, ce qui fait qu'ils n'ont pas développé de réaction allergène. Et effectivement, l'huile de lin, l'huile de coco, et puis bien d'autres huiles également qui existent. Je sais même que dans certains cas, certains utilisent aussi l'huile de chanvre pour pouvoir régler des problèmes dermatologiques, parce que ça permet en plus d'avoir des éléments calmants. Mais j'aurais tendance à te dire, Pat, tiens, mon Dieu, tu vois vraiment que ça persiste, va quand même consulter un vétérinaire, parce qu'il y aura peut-être un problème interne, comme on l'avait déjà dit, interne au chien, qui n'est pas nécessairement que d'un problème au niveau topique, et que le fait d'appliquer quelque chose sur la peau, c'est comme mettre un plaster sur une jambe de bois, ça te permet de donner le sentiment que tu traites quelque chose, mais le problème est peut-être intrinsèquement à l'intérieur, et pour ça, ça prend des évaluations allergènes, et ça, c'est les vétérinaires qui sont en mesure de pouvoir te faire cette évaluation-là, par exemple. Si à un moment donné, tu vois que ça commence vraiment à traîner, puis tu vois vraiment pas d'issue, ça pourrait être intéressant que tu puisses au moins aller consulter un vétérinaire. Je sais qu'on essaye de trouver un moyen de sauver des coûts par rapport à ce que peut coûter un animal, et je sais que le marché animalier peut être très dispendieux pour certains, mais je t'avouerais que dans certains cas, ça vaut le coup de l'investir si ça permet vraiment de régler définitivement une problématique qui pourrait, pas à terme, devenir de plus en plus grave.
C'est clair. Allez, merci, Pat.
Ah ben merci,
mais
bonne soirée à vous autres.
Salut, bonne soirée.
À maman
Oulé. Yes, à toi aussi, mon vieux. Merci, Pat. Hey, un autre téléphone, mon vieux, t'es prêt?
Oui, allez, c'est parti.
On se lance. Radio X, bonsoir.
Oui, c'est moi?
Oui, c'est à vous.
Moi, j'ai un wolf dog.
Wolf dog?
Ouais, c'est un loup mélangé.
OK.
Ouais.
Il y a 10 ans, Puis, il écoute au doigt puis à l'œil, OK? Je suis capable de faire n'importe quoi. Même si je laisserai un steak à terre, il peut passer toute la journée sans le prendre, rien.
OK.
Mais quand il arrive un inconnu, faut toujours qu'il prenne mon petit gars de 4 ans puis qu'il aille le cacher dans sa niche.
OK, il fait comme pousser comme un chien de berger qui ferait avec des moutons ton gars jusque l'emmener dans sa niche?
Oui.
Hein?
Y a-tu quelque chose à faire avec ça ou... Pourquoi tu fais ça?
Et puis si je te pose la question, ton gars, s'il essaye de s'en aller de ça, est-ce que ton chien devient comme agressif ou...
Non, ben mon chien, il pèse comme 120 livres. Fait que, mettons, il ramasse mon gars par son chandail, puis...
Il a pas le choix de suivre.
Ouais, ben c'est ça.
OK.
Ben, t'sais, y a-tu quelque chose pour ça? Y a-tu un moyen de dompter ça? Y a-tu un moyen de faire arrêter ça?
Ben, on s'entend que quand on parle d'un wolf-dog, là, puis on l'a en français chien-loup, là, on parle d'une espèce qui est extrêmement primitive, donc qui est encore très proche de ses fonctions de protection territoriale et de protection de ses ressources, y compris de sa famille. Et le petit loup de 4 ans que tu as, ben, forcément fait partie de ta famille et fait partie de la famille du chien intrinsèquement. Ça veut dire qu'au niveau de la hiérarchie présentement, là, et quand je parle de hiérarchie, attention, je parle pas de domination, ça n'existe pas la domination entre un animal domestique et son humain, mais qui est quand même une structure hiérarchique qui se met en place, c'est-à-dire que le chien loup pense qu'il a besoin effectivement de créer à la présence d'une personne inconnue, de créer un certain système de protection envers l'enfant plus jeune. Là, c'est à toi de récupérer un petit peu le lead par rapport à ça, c'est-à-dire d'apprendre à ton chien, tranquillement, pas vite, et même à 10 ans, ça va me permettre de répondre à la question précédente qu'on avait avec Pat. Un chien peut apprendre à n'importe quel âge. C'est sûr qu'un chien qui a 1 an versus un chien qui a 10 ans, celui qui a 10 ans va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour assimiler les apprentissages, mais il est quand même capable d'apprendre. Okay. Comme nous, à 70 ans, on est capable d'apprendre. Ça va peut-être nous prendre un petit peu plus de temps que quand on en avait 15, mais on est encore capable de retenir et puis de pouvoir associer des expériences. Ce qui veut dire que toi, avec ton chien de 10 ans, tu as la possibilité, effectivement, encore de lui réapprendre et de le désensibiliser par rapport à la présence d'une personne étrangère. Ça veut dire que ce qu'il va falloir faire, c'est être capable d'associer auprès du chien loup, c'est-à-dire auprès de ton wolf dog, le fait que quand quelqu'un frappe à la porte, c'est toi qui gères la situation. C'est pas au chien de gérer la situation. Ce que tu peux lui demander, par exemple, quand quelqu'un frappe à la porte, c'est de lui demander de se mettre en position assis et qu'il reste à une place bien définie, mais pas à côté de ton petit gars de 4 ans, dans une place bien définie dans laquelle tu vas lui demander de rester tant et aussi longtemps que la personne étrangère n'aura pas pu se mettre en contact avec ton chien. Lorsque ton chien aura effectivement compris que la présence qui vient d'arriver n'est pas une menace ou n'est pas un danger, il va naturellement baisser sa garde. Mais la période qui précède ça, tant qu'il ne sait pas à qui il a affaire et qu'il voit que présentement, il n'y a personne qui gère le petit gars de 4 ans, puis il n'y a personne qui gère l'entrée de l'invité ou de la personne inconnue, lui va avoir le sentiment que c'est à lui de prendre ce rôle-là. Donc il faut vraiment qu'on lui réapprenne à avoir sa place pour lui expliquer que c'est pas à lui de gérer la meute. On va dire que le couple alpha de la dynamique interspécifique, c'est-à-dire dans lequel il y a un humain et dans lequel il y a aussi un chien, ben c'est toi et ta conjointe. Fait que par conséquent, c'est important de rappeler en un sens que tu vas être amené à te positionner. Et puis là, c'est pas une question de domination, hein. C'est juste une question de rappeler, c'est moi, en tant que chef de famille, qui suis en charge de la protéger, la famille. Et toi, mon petit loup, t'as beau être un chien loup, c'est pas à toi de le gérer. Donc moi, je vais t'expliquer ce que je vais attendre de toi quand il y a une personne extérieure qui s'en vient ou un étranger qui s'en vient. Et ça, c'est un protocole d'apprentissage. D'abord, ce que tu vas faire, tu vas le lui apprendre quand quelqu'un frappe à la porte. Est-ce que quand quelqu'un frappe à la porte, il commence déjà à réagir à ce moment-là ou est-ce qu'il faut que la personne étrangère soit rentrée dans la maison pour qu'il adopte ce comportement-là?
Juste débarquer de son auto quand il arrive dans la cour.
Ah ouais. Okay.
Donc déjà les premiers signes. Donc tu vois, on pourrait même commencer la désensibilisation à ce moment-là. C'est-à-dire on demanderait à des personnes inconnues de venir. Toi, tu pratiques lorsque les personnes s'arrêtent devant chez toi ou s'arrêtent dans la cour puis sortent de leur voiture. On recommence, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler notre chien et de voir si on est capable, tranquillement, pas vite, de lui créer une attention différente et de se focusser sur toi. Pour ça, naturellement, et c'est ça que tu as la chance d'avoir déjà, c'est qu'il faut qu'il soit capable d'écouter au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu lui demandes un « assis, reste », peu importe la stimulation qu'il doit y avoir, normalement, il doit rester en position « reste » tant et aussi longtemps que tu ne vas pas donner le go d'aller éventuellement voir la visite ou éventuellement de retourner voir ton petit gars une fois que la visite a été considérée par ton chien comme safe.
Hey, mais tantôt, notre auditeur nous disait qu'il écoutait au doigt et à l'œil, qu'il pourrait laisser un steak, tout ça. T'as-tu l'impression, cher auditeur, que si tu lui dis « assis, reste », il va plus t'écouter ou bien la pulsion de japper puis de pousser ton gars va être plus fort? Selon toi, quel va être le plus fort?
Ça dépend, mettons. Si on est déjà dehors, c'est sûr qu'il va... Avant même que j'aie eu le temps de voir la personne débarquer de l'auto, c'est sûr que mon petit gars va déjà être caché.
OK. OK.
Ça se fait... ça prend 3 secondes, puis...
Il y a l'oreille, puis caché. Ouais, OK.
Exact. Donc, c'est pour ça, tu vois, que ça va être important non seulement que tu sois là en anticipation, c'est-à-dire, il faut préparer la scène en un sens. Il faut vraiment te mettre en situation, mais de manière contrôlée et encadrée pour pouvoir anticiper les choses. Puis surtout, il faut que on le travaille par mode de répétition. Ton chien, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'il fonctionne, enfin, depuis 4 ans au moins, depuis que ton petit gars est de votre environnement. T'as-tu d'autres enfants autrement? Est-ce que avant il a eu ce type de comportement-là avec d'autres enfants ou est-ce que c'est ton premier petit gars? Puis forcément, tu es en train de découvrir.
Il y a 5 enfants à la maison, puis c'est juste avec mon dernier qui fait ça. Il n'y a jamais fait ça avec les autres.
Ah, ouais.
Ouais. Ouais. Donc, c'est sûr que là, il était en mode protection. Il a compris qu'effectivement, c'était le petit dernier, l'être le plus vulnérable de la famille. Donc, lui se met en position de défense à ce niveau-là. Mais comme je te dis, il va falloir vraiment qu'on retravaille dans une mise en contexte tes commandements, mais dans le contexte dans lequel on sait qu'il va y avoir quelqu'un qui va s'en venir. Alors pour ça, comme je te dis, il faut qu'on stage un peu l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut que toi-même, tu saches qu'il y a quelqu'un qui va s'en venir pour être déjà prêt à lancer les premiers signaux. Parce que quand c'est pris par surprise, naturellement, le chien va réagir beaucoup plus rapidement que toi. Comme tu dis, ça lui prend même pas 3 secondes. Et hop, dès qu'il a vu une voiture qui s'en vient ou dès qu'il a entendu une personne qui s'en vient dans votre cour, aïe, il se met déjà en position de défense. Donc il faut qu'on soit capable de l'anticiper pour lui apprendre quelque chose avant. Puis surtout, ce qui va être important, c'est qu'il va falloir qu'on généralise l'apprentissage. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir le faire que à l'intérieur, il va falloir le faire aussi à l'extérieur, il va falloir lui apprendre dans plusieurs places de la maison pour que le chien soit capable de comprendre que le comportement que tu attends de lui, c'est pas que dans un contexte particulier, dans une place particulière, c'est dans un contexte particulier, mais dans toutes les places de la maison, par exemple.
OK.
Ah, ben, gros merci.
Donc ton processus d'apprentissage, il va falloir vraiment que tu le répètes. Mais ça, c'est comme je te dis, il faut que tu identifies les différentes étapes. Tu as bien identifié l'étape à laquelle ça fait déclencher ton chien. À partir de ce moment-là, il faut qu'on soit capable de reproduire cette étape-là, mais de manière stagée, pour que toi-même sois capable de lui permettre d'apprendre une nouvelle association qui fait que quand il entend une porte qui claque, il faudrait qu'il vienne quasiment apprendre à s'asseoir à côté de toi. Puis qu'à ce moment-là, il attende sa gâterie. Puis qu'une fois qu'il a eu sa gâterie, tu lui dises « reste ». Et que tant qu'il n'y a pas de familiarisation avec la visite, on ne lui laisse pas interagir avec ton petit gars, par exemple.
OK.
Allez, merci de ton téléphone. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Vraiment. Très bon cas. Très, très bon cas.
Salut, bonne chance avec ton chien et loup. Le monde s'en fout, Chris. Les chiens et loups.
Réalise-tu? Les chiens et loups. Ouais.
Le monde s'en fout. Le monde n'a pas peur de la mort.
Non, ils n'ont pas peur de la mort, mais en même temps, ça reste quand même un animal domestiqué. Hein. Tu sais, même si ça reste un animal pareil, tu sais. La seule différence, c'est que tel un husky sibérien ou un malamute ou quel que soit le type de chien primitif, c'est sûr qu'il est beaucoup plus proche de son instinct primitif animal que du chien domestique qui a été juste bâti ou génétiquement modifié pour être un chien domestique. Fait que ça reste un chien domestiqué, mais il reste quand même avec des intentions très, très proches de ses instincts d'origine du loup.
Ça peut-tu causer du trouble au niveau génétique de mélanger deux espèces comme ça, ou vu qu'ils sont tellement proches que ça fait pas grand-chose?
C'est un très bon point, Louis, que t'apportes là, parce que ça a été une question très, 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 on va dire, très débattue dans le milieu scientifique en un sens, parce qu'effectivement, ce qu'on concevait pas au départ, c'était la capacité que deux animaux d'une espèce différente puissent s'accoupler. Alors, on parle d'un Canis lupus. Donc, le Canis lupus, qui est le loup à la base, et le Canis lupus familiaris, qui lui est devenu notre chien en un sens. Donc, le Canis familiaris. Et on s'était dit, c'était deux espèces différentes, c'est impossible de les faire se reproduire. Or, on a pu constater que dans la nature, et même de manière génétiquement assistée, on était capable de pouvoir associer deux espèces différentes. Pour cause, comme tu l'as dit, les deux espèces restent quand même relativement assez proches. Accoupler un chat mâle avec un chien femelle, par exemple, là, on aurait probablement des difficultés dans ce qu'on aurait comme résultat derrière.
Mais
les chiens et les loups...
Mettons, on fait un chat avec un lynx.
Tu vois?
Ça pourrait marcher.
Ben, Ben, ça resterait un peu dans la même dynamique, tout dépendant de la taille du chat qui va être reproduit ou alors du position de l'un ou de l'autre, parce qu'on s'entend qu'un lynx, c'est quasiment 5 fois plus gros qu'un chat.
Un Maine Coon.
Avec un Maine Coon, pourquoi pas, à la rigueur. Mais une fois de plus, allons pas donner de bonnes idées encore à nos apprentis généticiens éleveurs qui ont fait déjà pas mal de ravages avec tous les mix et les matchs qu'ils ont décidé de faire entre les races, même au sein même de l'espèce canine. Alors maintenant, de vouloir aller pogner d'autres espèces plus sauvages pour en créer des nouvelles espèces domestiquées, je vais garder mes réserves.
Bon, je comprends. Hey, avant qu'on se laisse, Chris, j'ai une petite question pour toi qui part d'une expérience personnelle. La saucisse a le nez particulièrement sèche ce temps-ci, puis on se demandait, elle a la truffe super sèche, puis on se demandait si c'était pas en lien avec la saison, tu sais, l'automne qui est arrivé, ou c'est juste parce que ça en vient une vieille saucisse de 7 ans. Puis ma blonde m'a dit, hey, tu demanderas à Chris, là, si c'est un scam marketing, les espèces de déodorant, là, si on veut, là, les rouleaux qu'on roule sur le nez des chiens. Est-ce qu'il faut que j'achète ça? Est-ce que tu le conseilles, déconseilles? Ça a-tu une utilité? Est-ce que de pointer du doigt le changement de saison, est-ce qu'on est dessus? C'est quoi ta pensée par rapport à tout ça?
Écoute, c'est vrai que le changement de saison peut avoir un impact sur l'ensemble du système physiologique du chien. Il fait de la mue, naturellement. Donc, il mue, il va changer ses poils parce que son système de thermorégulation va changer. Il a dû avoir un système de thermorégulation estival. Là, il va devoir reprendre un système un petit peu plus hivernal. Et effectivement, d'autres attributs, comme par exemple la truffe, peuvent être également touchés par un changement climatique. Là, on va dire que le changement n'expliquerait pas nécessairement l'assèchement de la truffe de Yoko. Ça peut être lié à d'autres problématiques. Par exemple, est-ce qu'elle boit suffisamment en ce moment? Est-ce qu'elle est suffisamment hydraté, mais plutôt que d'aller prendre un espèce de déodorant ou de quoi, si tu as une crème vierge de quoi que ce soit, tu sais, une espèce de crème à noix de coco par exemple, ou une huile hydratante que vous avez peut-être même utilisée pour votre corps, juste lui appliquer légèrement sur la truffe régulièrement pour voir comment son hydratation revient, puis comment elle reprend son statut humide nécessaire.
Avino sans parfum de ce monde-là, tu sais, Avino, peau sensible, ça ferait la job.
Ça pourrait faire la job, puis même, je te dirais, une huile de coco que tu as n'importe où, là, une huile quelconque, là, ou une crème quelconque, qui n'a pas trop de produits, en un sens, de produits toxiques, qu'on peut utiliser même sur nos corps à nous. Le chien, lui, va être beaucoup plus sensible au niveau de la truffe. Donc, on essaiera vraiment de trouver une huile vierge quelconque, mais on n'est pas obligé, effectivement, de toujours prendre des produits qui sont faits par le commerce pour ça. On a plein de produits naturels qui font très bien la job. Tu peux très bien également mettre dans son eau un petit peu, rajouter un peu d'argile verte. L'argile verte va permettre de pouvoir redonner un petit tonus au niveau de ses défenses immunitaires, possiblement qu'en lichant également l'eau dans laquelle tu as de l'argile verte. L'argile verte, tu en trouves partout, hein. Tu peux en trouver chez Avril, tu peux en trouver dans n'importe quel commerce qui peuvent vendre des produits naturels. Okay. Ça ne coûte pas très cher. Puis tu en mets un petit peu dans son eau, effectivement, le fait qu'elle boive de l'eau avec ce complément-là, ça peut l'aider. Tu peux aussi, pourquoi pas, utiliser des oméga. Tu prends une gélule d'oméga qui est une huile à base déjà, une huile de poisson. Mm-hmm. Ça sent pas super bon, mais tu peux également le lui appliquer directement sur la truffe pour voir comment ça évolue. Et si tu vois effectivement que la truffe, malgré ces petits traitements-là, reste encore sèche, là, effectivement, j'inviterais peut-être à aller consulter un vétérinaire qui pourra peut-être identifier d'autres sources qui seraient en lien avec la sécheresse de sa truffe. Mais ça arrive quand même que les chiens... Moi, à partir du moment où un chien a sa truffe sèche pendant quelques jours, quelques semaines, ça m'inquiète pas. Si ça commence à perdurer, puis tu vois qu'il a même des problèmes au niveau respiratoire ou d'autres problèmes même au niveau alimentaire, là, effectivement, une fois qu'on a d'autres symptômes, là, il sera peut-être dû d'aller consulter.
Hey, je terminerai avec ça, puis c'est vraiment une belle courbe. Je t'en ai pas parlé, j'ai complètement oublié.
C'est bien correct.
On en a parlé jeudi passé. As-tu vu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe plutôt, les problèmes de recrutement de personnel chez Daubigny?
Ouais. Oui, j'en ai entendu parler, et pour cause, c'est que j'ai une de mes amies qui travaille pas chez Daubigny, mais dans la clinique qui est juste à côté, qui appartient au groupe Daubigny d'abord, qui est Global Vet. Et oui, il y a de gros problèmes de recrutement actuellement dans le secteur animalier, et pour cause, c'est un secteur qui est pas évident. C'est un secteur qui est pas facile. Comme je vous l'avais déjà dit, l'une des professions dans lesquelles le taux de suicide est le plus élevé, c'est dans le secteur médical animal, que ce soit les vétérinaires ou même des techniciens en santé animale. Fait que c'est sûr que avec tout ce qu'on vit présentement et avec la, j'aurais tendance à dire, la négligence de notre société envers nos animaux, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile de trouver des gens qui ont le cœur vaillant pour pouvoir aller faire face à ça.
En plus, dans l'article en question, il pointait du doigt le fait que l'entreprise mettait beaucoup de pression pour vendre des abonnements de soins, puis vendre des assurances.
C'est le deuxième point que j'allais évoquer, effectivement. C'est que ça reste une entreprise privée, hein, quand même, c'est le service d'urgence de Québec au niveau animalier, mais c'est quand même une entreprise privée. Et effectivement, pour pouvoir augmenter ses bénéfices ou son chiffre, ben, on peut mettre effectivement parfois... c'est-à-dire que nos techniciens en santé animale qui n'ont pas fait d'études pour pouvoir nécessairement... ou qui n'ont pas choisi ce métier-là pour devenir des vendeurs ou des conseillers de vente... Ben, on leur demande effectivement de plus en plus d'être en positionnement de vente pour pouvoir faire de la vente additionnelle ou pour pouvoir juste fidéliser de manière un petit peu plus drastique les clients en vendant des systèmes de forfait. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu le cas de la plupart des cliniques vétérinaires qui existent maintenant. Il faut toujours faire la distinction entre les abus qui sont faits puis le fait que ça puisse être justifié. Mais c'est sûr que c'est pas à une technicienne en santé animale, probablement pas non plus à un vétérinaire, de faire tout ce travail marketing derrière. Eux, ils sont là pour pouvoir répondre à la santé d'un animal qui parfois est dans une situation bien difficile, parce que c'est aussi, comme tu disais, Dominique, les urgences.
Ah oui.
Donc, c'est des arrivées d'animaux non planifiés.
Et humains vulnérables aussi, Chris.
Exactement, et des humains vulnérables. Et c'est là où il faut toujours être très vigilant, parce que c'est toujours dans la vulnérabilité de l'humain qu'on est capable de toujours lui faire signer des choses qu'on n'aurait pas signées si on n'avait pas été dans cet état-là. Mais bref, tout ça pour dire que je comprends effectivement maintenant que le secteur animalier, et surtout dans certains établissements plus particulièrement, on a la difficulté à recruter, parce que veut pas, Québec, c'est une petite ville, puis l'information circule très vite dans n'importe quel secteur d'activité dans lequel vous travaillez. L'information circule très vite, puis parfois, malheureusement, ça peut desservir le recrutement de certaines entreprises. Ouais.
Effectivement. Eh bien, Chris, encore une fois, ça a été un vrai plaisir de te retrouver. Notre table ronde, on l'oublie pas en passant. Hein. Si tu es disponible la semaine prochaine, je te reviendrai avec une date. Nous, on aimerait faire ça la semaine prochaine. Fait que je vais te revenir. Si tu as le goût, tu es le bienvenu. Notre table ronde aura lieu. C'est de trouver quand.
On va trouver quand, puis on va trouver qui aussi, parce que je vais essayer de vous trouver quand même du staff de remplacement à la rigueur. Là, j'étais un petit peu pris de court par rapport à vos à la déprogrammation, mais je vais essayer quand même de trouver des panels représentatifs pour pouvoir m'accompagner dans cette table ronde aussi que je vous soumettrai, pour qu'on soit sûr d'avoir du monde autour de la table.
Ah, oh, super. That's it. Hey, ben Chris, encore une fois, ça a été un plaisir. Prends soin de toi, puis on se voit très bientôt, mon vieux.
Prenez soin de vous également. Merci infiniment pour ce temps de parole encore, une fois de plus.
Salut. Bye-bye, Chris. C'était Chris, anciennement de Horus, mais...
C'est
Chris de chez Horus, tout le temps. Oui. Hein, il va rester Chris de chez Horus tout le temps. Et c'est Chris du Spacecast, en fait.
Absolument.
Tout simplement Chris du Spacecast, qui une fois de temps en temps vient répondre à vos questions. Un vrai de vrai passionné des animaux. On fait une courte pause, 88-670-9098. On vient, ça sera pas long.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Spacecast, présenté par Sensation Plus. Magasinez au sensationplus.com et découvrez tous nos produits érotiques pour couples. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com.